Le planning familial est une association créée il y a une soixantaine d'années maintenant et qui prend place pour son antenne Montpellier-Rennes dans le quartier des Beaux-Arts. Seulement si on en parle aujourd'hui, c'est que le planning de l'Hérault fait face à des difficultés financières et a lancé un appel aux dons pour réunir 20 000 euros. Alors on en parle avec vous. Bonjour Maria Antonietta, vous êtes bénévole depuis maintenant 3 années si je ne me trompe pas,
oui,
au planning
bonjour.
Familial. Bonjour. Et avec nous on a aussi Gaëlle, vous êtes membre du CA. Du conseil d'administration du planning familial de l'Hérault.
Tout à fait.
Alors, tout d'abord, pour bien comprendre les enjeux de ce financement, j'aimerais d'abord comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le planning familial, finalement, à qui ça s'adresse et quelle mission s'est donnée cette association.
Oui, l'association est ouverte à tout le monde. Nous proposons beaucoup d'activités. Nous sommes connus pour les centres de santé sexuelle qui se trouvent effectivement au Beaux-Arts, jusqu'à côté de l'arrêt des trams, et qui est ouvert à tout le monde sur rendez-vous. Les consultations sont gratuites. Nous avons gynécologues et des sages-femmes pour des consultations. Et même si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez demander une consultation gratuitement et les parents ne sont pas obligés d'être au courant. Et par exemple, si je donne une anecdote personnelle, quand moi je suis arrivée d'Italie, je suis arrivée en France, même si j'étais européenne, si je suis européenne, je n'avais pas ma carte vitale et j'avais besoin de contraception. Donc je suis allée au planning familial, on ne m'a absolument rien demandé, presque pas mon prénom, moi juste j'ai eu un rendez-vous avec une gynécologue qui m'a donné toutes les informations pour que je puisse avoir accès à une contraception. Alors que ça serait, je ne savais même pas comment faire sans carte vitale. Mais on a aussi beaucoup d'autres cas de figure. On a des personnes spécialisées en conseil familial. On fait des interventions à l'école pour sensibiliser à la vie affective, sexuelle. Peut-être elle peut en parler plus. On a des groupes de parole de sexualité. D'ailleurs, elle est arrivée comme ça à l'association pour animer un groupe de parole sur les sexualités LGBTQIA. Et nous sommes en communauté d'une soixantaine de bénévoles actifs et il y a une quinzaine de salariés.
Ça fait du monde.
Ouais.
Et alors oui, justement, il n'y a pas qu'un volet soins médicaux. Finalement, il y a aussi un aspect un petit peu plus culturel. Je pense à... Vous étiez venu sur Divergence précédemment pour présenter les cercles de parole sur les masculinités, par exemple. Il y a tout un travail sur cette lutte-là, plus idéologique, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
Sur le partage de la charge contraceptive, il y a gens qui, par exemple, animent des ateliers de fabrication d'anneaux testiculaires ou de slips chauffants, justement pour que les hommes puissent avoir accès aussi à un espace pour partager la charge de la contraception avec leur partenaire.
Et c'est des groupes qui sont mensuels, donc c'est une fois par mois, il y a plusieurs bénévoles qui les animent. Et c'est des groupes aussi en mixité. Puisque à côté, il y a aussi un groupe pour fabriquer des protections périodiques. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme groupe. C'est un groupe qui marche très bien, où il y a à la fois des personnes qui viennent fabriquer leur contraception testiculaire et à la fois des personnes qui viennent fabriquer leur protection périodique. Donc on a des machines à coudre pour les deux. Voilà. Voilà. Effectivement, je rebondis un petit peu sur ce que disait Maria Antonietta. C'est, nous, on a deux gros volets en fait, au planning. Il y a un volet militant porté pas mal par les bénévoles où il y a du coup ces groupes mensuels. Donc on va avoir effectivement ce groupe-là. On a un groupe discussion sexualité LGBT en mixité choisie. On a des groupes de lecture. On a un club de lecture féministe. J'en oublie d'autres. On a un groupe autour des violences pour les femmes victimes de violences conjugales. Ayant été victime ou victime encore. Voilà, on a plusieurs groupes comme ça qui sont animés exclusivement par des bénévoles. Et après, on a tout le volet salarial, qui lui aussi, bien sûr, est militant. Mais par contre, eux, ils ont du coup des postes rémunérés. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Je pose déjà le premier point, argent.
Et justement, comment tout ça s'est financé en principe, on va dire, quand tout roule?
En principe, on devrait avoir des subventions qui nous permettraient du coup de réaliser toutes nos missions sans avoir à aller chercher l'argent tous les ans. Nous, en gros, on fonctionne par enveloppe, c'est-à-dire que pour diversifier nos missions en fonction des besoins du territoire et de nos publics, puisque c'est une des plus vieilles associations féministes de France, on en parlait tout à l'heure, ce qui est important avec le planning familial, c'est vraiment ça, c'est qu'on l'a conscience des besoins du public, que ce soit des femmes minorités de genre, des jeunes, des moins jeunes. On a cette expérience qui nous permet de savoir comment en fait adapter ces besoins avec des missions. On anime par exemple des groupes de parole à la Mausson ou à Lunel pour les femmes qui ont envie de discuter. Ça, c'est un besoin du territoire montpelliérain, mais il y aurait d'autres besoins potentiellement ailleurs. Et nous, on pense qu'on aurait besoin d'argent qui soit pérennisé pour pouvoir que ces missions, elles, en fait, elles soient stabilisées, qu'on puisse accompagner au mieux les publics et qu'on n'ait pas peur chaque année de se poser la question de est-ce qu'on l'arrête ou pas ? Est-ce que les jeunes, ils ont besoin encore d'accompagnement ? La réponse est oui, et c'est pour longtemps, en fait.
Oui, justement, cette année, vous faites face à des difficultés, et c'est pour ça que vous avez lancé cet appel aux dons. Alors, pourquoi cette difficulté particulièrement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui. Alors, il y a quelques années, peut-être pour les personnes qui habitent à Montpellier depuis longtemps, elles s'en rappellent. Il y a 3 ans déjà, on avait vécu aussi une crise un peu financière, tout simplement parce qu'on est une association et qu'aujourd'hui en France, les associations doivent demander des subventions, doivent faire des appels à projets, des appels d'offres pour pouvoir rémunérer leurs salariés correctement. Et aujourd'hui, nos subventions, elles stagnent. Elles n'ont pas forcément baissé, mais en fait, elles stagnent. Sauf que nos missions, elles continuent d'exister, que chaque année, on a besoin de les pérenniser. On a des salariés qui ont besoin d'être rémunérés et l'inflation, etc., ça augmente. On a embauché des personnes cette année, encore une fois. En fait, tout le coût de la vie coûte cher. Il y a des projets qui nécessitent de l'argent. Et on a un projet notamment qui s'appelle l'EVARS, dont parlait Marie-Antonietta, qui est donc l'animation en milieu scolaire d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc pour les collèges et lycées. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui est politique et militant, puisque c'est là où on fait de la prévention aux violences. Nous, ce projet, on a envie qu'il soit pérennisé, et aujourd'hui, en fait, il a été inscrit dans le programme de l'éducation nationale, donc très chouette, sauf que du coup, la compétence est donnée aux enseignants et aux enseignantes, et non plus aux associations de terrain. Ce qui veut dire qu'en fait, les établissements scolaires, ils n'ont plus de financement non plus pour payer en fait des assos venir en classe 3 fois par an, comme l'indique la loi. Et donc, ces associations comme le planning ou d'autres n'ont plus en fait l'argent pour intégrer les espaces scolaires qui sont pour nous prioritaires, en fait, qui sont très importants pour la prévention. Ouais. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle en fait, on a beaucoup moins d'argent, nos animateurs là, de terrain. Je dis animateurs puisqu'on a 2 animateurs terrain qui vont régulièrement au collège et lycée. Ils passent beaucoup de temps au téléphone à essayer de négocier des tarifs, des devis, etc. Alors qu'en fait, on aimerait pouvoir dire aux établissements « Oui, on vient une semaine former toutes vos classes de 4e et on revient dans 3 mois et encore dans 3 mois. » Et on aimerait ne pas avoir à négocier des tarifs et pour les élèves et pour l'établissement, enfin voilà, pour les familles en fait, parce que c'est censé être de la prévention et donc un droit en fait. Nous, on pense que c'est un droit d'être éduqué à la sexualité.
Et ce problème-là, il touche le planning familial au niveau national, ou je pense que vous n'êtes pas, sûrement pas en tout cas, le seul centre en France à avoir ces difficultés-là, finalement.
Effectivement, on est 82 antennes de planning familial en France. Ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a énormément de départements qui ont des plannings familiaux. Familiaux, je sais pas. Et en fait, y a des plannings qui s'en sortent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont que des bénévoles, donc ils ne payent pas de salariés. Donc bien sûr, ça marche mieux, mais par contre, ça pose la question de la professionnalisation et de l'importance qu'on donne en fait, à des associations comme ça. C'est très chouette qu'il y ait des bénévoles qui puissent animer des temps en milieu scolaire, etc. Mais par exemple, le centre de santé, on préfère que ça soit des médecins qui soient rémunérés, des généralistes qui soient rémunérés. Et on pense aussi que les animateurs et animatrices, les formateurs et formatrices doivent être... on fait des études, on fait des formations longues pour pouvoir écouter un public, pour pouvoir accompagner. Donc il faut qu'ils soient professionnalisés, en fait. Nous, on n'a pas envie de devenir un planning seulement de bénévoles. On pense que c'est important qu'il y ait notre équipe de bénévoles qui est très active, aujourd'hui encore là pour la campagne, mais on considère que c'est très important que ça soit en fait de la responsabilité des institutions de payer des assos pour qu'elles puissent accompagner le public.
Et j'aimerais ajouter que, par contre, le risque de fermeture est vraiment concret. Il y a des plannings qui ont fermé, même dans notre région. Peut-être pour les écouteurs, l'idée que le planning familial de l'Euro est tellement une institution que ça ne peut pas fermer, mais les risques existent. Il y a d'autres plannings en France qui ont dû fermer leurs portes parce que, justement, les fonds n'étaient pas suffisants.
Eh bien oui, le risque est là. On va marquer une petite courte pause et on revient dans quelques instants pour continuer à parler de ce sujet.